Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Philippe Erlin. Philippe Erlin, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs connaissent Philippe Erlin puisqu'il a été distingué l'année dernière par le prix Turgot pour son ouvrage « Finance, le nouveau paradigme » et pour lequel il avait reçu, et ceci avait été très remarqué, le prix du grand jury. Encore bravo pour cette distinction. Alors,
merci.
Vous vous distinguez une nouvelle fois en faisant paraître simultanément sur le premier trimestre de l'année chez Erol trois ouvrages qui chacun en fait compose un ensemble et qui marque une nouvelle forme de pensée et la pensée d'une jeune génération qui d'ailleurs est orientée sur le problème du risque et de l'incertitude. Alors, votre premier ouvrage, on en reviendra surtout sur celui-ci, a pour titre « Repenser l'économie, Mandelbrot, Pareto, signes noirs, monnaie complémentaire, les nouveaux concepts pour sortir de la crise ». Et simultanément, donc, je le disais, vous faites paraître deux autres ouvrages qui prolongent en quelque sorte ce cadre général de, qui permet de repenser la nouvelle économie. Alors quelque chose de plus franco-français, « La France, la faillite ?» Point d'interrogation, heureusement,
oui.
Après la perte du 3A, du triple A. Et au passage, vous délivrez quelques conseils pour tout un chacun pour protéger son patrimoine. Et toujours dans cette même axe, apparaît votre troisième ouvrage, toujours sur le premier trimestre et chez Erol, L'or, un placement d'avenir. Et là encore, avec un guide pratique pour acheter et gérer l'or. Alors, bravo pour cette performance qui méritait d'être saluée. On va peut-être surtout s'attacher à traiter du premier, en invitant nos lecteurs et nos auditeurs à se procurer les trois ouvrages, bien entendu, Repenser l'économie. Alors, l'essentiel de votre thèse, c'est de dire que à ce jour, la pensée économique n'a pas suffisamment intégré les travaux du prix Nobel Mandelbrot, qui a, lui, le premier, montré qu'il existait un hasard extrême, que les approches classiques ne permettaient pas de cadrer. Alors, est-ce que vous pouvez développer ce premier élément? En quoi il faut repenser l'économie par rapport au risque et à l'incertitude?
Oui, alors, la thèse de Mandelbrot, que j'appelle le moment Mandelbrot dans mon livre, parce que c'est un moment historique qui, justement, n'a pas eu d'influence au moment où ça s'est passé, malheureusement. La thèse de Mandelbrot, c'est qui était un mathématicien, qui est le découvreur des fractales, et qui, par ailleurs, s'intéressait beaucoup à l'économie, à la science économique. Il travaillait aux États-Unis après-guerre. Il a vu naître l'émergence de l'école de Chicago, c'est-à-dire la théorie du portefeuille, Sharpe Markowitz, théorie des options, Black et Scholes et compagnie, enfin on connaît tout ça. Et donc cette théorie de la finance, qui est celle dans laquelle nous baignons aujourd'hui, est apparue dans les années 60. Et à l'époque, comme il fallait intégrer l'incertitude dans les modèles, les économistes, Markowitz et compagnie, ont pris l'outil qui était le plus communément utilisé à l'époque, qui est la courbe de Gauss, aussi appelée la loi normale ou la courbe en cloche, que c'est la forme d'une cloche, et qui est une loi qui fonctionne très bien dans le domaine de la physique. Et donc, ils l'ont repris à leur compte pour le mettre dans leur modèle en se disant ça permettra d'intégrer l'incertitude qui existe sur les marchés financiers et dans l'économie. Et puis Mandelbrot, lui, a fait quelques calculs sur les ordinateurs de l'époque, des vieilles machines, mais bon, quand même, il a pris des séries de prix d'actifs financiers, et puis il a dit, attention, là, j'ai regardé des prix, des séries de prix sur la longue durée, il y a beaucoup plus de valeurs extrêmes que ce que ne dit la loi normale. Et lui, il expliquait que c'était une erreur de prendre de la loi normale, parce qu'en prenant cet outil, on va négliger tout un tas de valeurs extrêmes qui, tout simplement, provoqueront des faillites ou des cracks, et que donc, si on néglige tous ces événements, on va au-devant de malheurs.
Alors donc, la crise financière que l'on vient de traverser, sur laquelle on n'est pas encore sorti, illustre parfaitement ce gap entre la pensée économique classique et son appréhension du risque, et ce qu'elle a fait dans cette traversée terrible des trois dernières années, où une part du risque lui a complètement échappé. Alors, peut-être pour faire un tout petit peu de pédagogie, mais extrêmement rapidement, Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qui distingue l'incertitude du risque dans l'acceptation classique et sans rentrer véritablement dans les détails? Et puis peut-être un tout petit mot sur ce qui est... Vous dites que c'est l'inventeur des fractales, Mandelbrot, un mot sur au moins la définition des fractales. Mais en tout cas, ce qui distingue, si j'ai bien compris, l'incertitude du risque, c'est que l'un est mesurable et l'autre beaucoup moins.
Voilà, c'est-à-dire, avec la courbe de Gauss, on a quelque chose de très mesurable. Et quand le phénomène en question répond effectivement à la courbe de Gauss, eh bien, tout va bien, on a quelque chose de très cadrable, de très mesurable. Ça, c'est l'incertitude qu'on peut mesurer, quoi. Mais dans l'économie, sur les marchés financiers, il y a aussi des risques extrêmes, très importants, qui, eux, ne sont pas mesurables parce qu'ils arrivent tellement rarement qu'on ne peut pas avoir de séries longues pour pouvoir leur affecter une probabilité quelconque.
Autrement dit, on peut prévoir...
On peut prévoir que ça peut arriver.
C'est ça.
Hein, mais on est bien en peine de mettre un quelconque chiffre là-dessus.
D'accord.
Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mettre de chiffres, parce qu'on n'a pas d'historique, que ça n'arrive pas. C'est ça la grande erreur. Ce n'est pas parce que c'est impensable que ça n'arrive pas.
Ouais.
Et ça arrive de toute façon bien plus souvent qu'on ne le pense.
Ouais.
Et il faut plutôt comprendre le hasard sous forme de loi de puissance, où je prends une notion qu'on connaît souvent, qui est la loi de puissance la plus connue, c'est la loi de Pareto, qui est la
80,
règle,
20,
qui est la règle des 20-80 et qui dit, par exemple, et ça on vérifie tout le temps, que dans un secteur donné, 20% des entreprises représentent 80% du chiffre d'affaires total. Pour une entreprise donnée, 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Ou si on prend les ventes de livres, 20% des auteurs représentent 80% des livres ou 20% des films font 80% des entrées en cinéma. Ça, c'est des vérités qu'on retrouve partout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est face à une loi de Pareto, à un modèle 20-20-80, il y a des variations énormes entre celui qui est en tête et puis celui qui est dans la longue traîne, il y a des variations.
Alors que dans la logique de Gauss, il y a peu de variations
voilà,
par rapport à la moyenne.
Voilà, dans la logique de Gauss, on a des variations. Les variations extrêmes sont extrêmement rares et la plupart des variations sont autour de la moyenne. Et il faut bien comprendre que ce sont deux modèles complètement différents pour comprendre, pour appréhender la réalité. Soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Mais si on cherche à mesurer un domaine comme l'économie avec des lunettes gaussiennes, là c'est sûr qu'on passe à côté. Et donc, quand l'économie marche tranquillement, on ne s'en rend pas trop compte. Et puis, dès qu'il y a une variation importante, un retournement de marché important qui n'était pas prévu, à ce moment-là, tous les modèles sont dans le noir et ça provoque une crise parce que souvent les banques n'ont pas mis les liquidités suffisantes en sécurité. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'utiliser cet outil gaussien et toute cette finance gaussienne provoque des crises à répétition.
Voilà pour le constat, on comprend pourquoi cette crise financière a pris, alors que des mathématiciens avaient infesté tous les books des banques et des salles de marché, que cette crise a pris cette dimension-là. Parce qu'effectivement, si on voulait écraser un risque avec un marteau alors qu'il fallait un marteau pilon, on est passé à côté. Mais alors, bien, le constat, le voilà. Et bien sûr, avec vos regrets, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, qui est très bien écrit et très clair, hein, qui est très accessible. Je ne voudrais pas que nos auditeurs pensent que c'est quelque chose où on trouve des équations à toutes les pages. C'est écrit d'une façon extrêmement accessible par, on va dire, un public averti, mais simplement qu'averti. Donc, quand on a fait ce constat, ensuite, il faut passer à la phase action. Et quelles sont vos recommandations alors pour repenser cette économie? Qu'est-ce que vous suggérez? Quelles sont les lignes d'action que vous proposez?
Alors, je propose des réponses dans le livre, dans la dernière partie. Il y en a une dont je voudrais parler parce que c'est une idée qui est un peu négligée, mais qui, en fait, est pour moi vraiment fondamentale. C'est la notion de monnaie complémentaire.
Oui, alors c'est assez nouveau, oui.
Voilà. Alors, une monnaie complémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est une monnaie qui circule à côté d'une autre monnaie. On peut prendre un exemple pour les plus anciens, c'est que les cigarettes à l'armée, par exemple, c'était une monnaie qui permettait
parallèle, qui permettait
d'effectuer certains services. Les troufions de base avaient une solde très faible, mais comme on donnait des cigarettes à tout le monde, et c'était donné une monnaie d'échange, et contre tant de cigarettes, on avait une chope de bière où on pouvait faire tel service. Bon. Un exemple de monnaie complémentaire qui existe aujourd'hui, ce sont les miles des compagnies aériennes. Quand on voyage, on récupère des miles. Et avec ces miles, on peut acheter d'autres voyages, mais on peut aussi acheter, j'ai regardé sur le site d'Air France, on peut aussi acheter d'autres biens de consommation. Donc ça devient un peu une monnaie complémentaire. Ou on peut aussi considérer que le chèque déjeuner, c'est aussi une forme de monnaie complémentaire. Bon, voilà.
Et alors, en quoi cette monnaie complémentaire est une réponse à la crise?
Alors, quand on le dit comme ça, ça peut sembler des choses assez marginales. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un mouvement depuis les années 2000, notamment au Japon, en Allemagne, en Amérique du Sud, dans plein de pays. Il y a des milliers de monnaies complémentaires qui se créent et qui circulent dans l'économie. Et en général, ce qu'on entend par monnaie complémentaire au sens strict, c'est une monnaie qui circule dans une région donnée. Par exemple, en Allemagne, un Chiemgau, qui est une région de Bavière, il y a le Chiemgauer qui circule. Un Chiemgauer égale 1 euro. Mais c'est circule de façon locale et les commerçants peuvent acceptent cette monnaie. Et donc, ça a pour fonction de relocaliser la production. Donc, ça a cet intérêt-là. Et quand on prend, ce qui est intéressant de noter, bon là encore ça peut paraître marginal, mais quand on prend un peu de recul historique et quand on regarde l'histoire monétaire sur la longue période, on se rend compte qu'en fait nous avons toujours fonctionné dans un système monétaire diversifié dans lequel plusieurs monnaies fonctionnaient. Et quand on regarde le Moyen-Âge, on va dire, de Charlemagne, enfin, entre Charlemagne et Napoléon, donc ça fait une très grande période, le Moyen-Âge Renaissance, on se rend compte qu'en fait, il y avait des monnaies qui étaient des monnaies internationales, comme l'or. L'or servait au commerce au long cours, servait à l'endettement des États aussi, déjà. Mais les gens du peuple avaient rarement l'occasion d'avoir une pièce d'or dans leurs mains, parce que ça représentait une somme très importante. Et puis, il y avait des monnaies en argent, déjà, qui circulaient plus localement. Et puis, il y avait aussi des monnaies en cuivre qui étaient frappées par l'autorité locale et qui circulaient de façon locale. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on est dans un système avec plusieurs monnaies qui sont en forme de millefeuille, on va dire, mais qui ont des modes de circulation différents, certaines très grandes, d'autres plus limitées, ça apporte de la résilience au système financier. Et je cite l'exemple d'une très grande, très grave crise financière qui est arrivée en 1340 à Florence. Florence, qui était à l'époque la première place financière européenne bancaire, avait prêté énormément d'argent au roi d'Angleterre, qui a décidé de faire défaut. Donc ça a provoqué un cataclysme, la faillite de toutes les banques de Florence. Mais la zone économique autour de Florence n'a pas subi la crise, parce que les paysans locaux, eux, ne fonctionnaient pas avec le florin de Florence, il fonctionnait avec des monnaies locales en cuivre. Donc, on voit que c'est un effet d'amortisseur de crise. Et donc, pour moi, ça représente une solution pour sortir de la crise aujourd'hui. Par exemple, si on prend le cas de la Grèce, je considère qu'il faudrait... Le pays reste dans l'euro, mais on lui permet de réintroduire une monnaie nationale, on peut réintroduire la drachme, tout en laissant aux entreprises, aux particuliers, le choix de choisir ce qu'ils veulent. Par exemple, les touristes continueraient de payer en euros quand ils vont en Grèce. Les entreprises grecques qui achètent des produits à l'étranger auraient un compte en euros, un compte en drachme. Et cette façon-là, ça donnerait, l'État grec paierait les fonctionnaires en drachme. Enfin bon, il y aurait toute une double circulation qui permettrait à la Grèce d'avoir une monnaie qui correspond à son économie. Et on pourra même rajouter des monnaies locales ou régionales qui circuleraient dans les régions grecques un peu enclavées. Voilà.
Mais dans ce cas, la monnaie, on va dire, complémentaire, elle ne serait pas convertible alors. Elle resterait...
Elle aurait un cours qui serait différent, par exemple, si on réintroduit la drachme, elle aurait un cours qui serait différent de l'euro, qui ne serait pas fixe, qui ne serait pas lié de façon fixe à l'euro.
D'accord, c'est obligatoire. Voilà. Bien, alors donc, voilà, ce qui me donne une transition toute faite pour parler de vos autres ouvrages, l'or, un placement d'avenir. Alors, ça peut surprendre, mais on croirait que c'est plutôt un placement d'hier plutôt que d'avenir. Et vous, vous en faites un placement d'avenir. Alors, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas du tout sortis de la crise actuelle. On voit qu'elle revient là, sur le devant de la scène avec, en Europe, dans la zone euro. Et nous devons intégrer comme risque, qui a une certitude assez élevée, le risque de faillite bancaire, de crack, un peu comme ce qui s'est passé en Argentine en 2000. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, ça s'est passé en Argentine, avec des faillites bancaires, avec des banques qui sont obligées de baisser le rideau, avec une épargne qui reste sur un compte bancaire, mais auquel on n'a plus accès parce que les banques sont au bord de la faillite. Et je dis, dans ce cas-là, ça va se terminer très mal par de l'inflation. La banque centrale n'aura plus comme seul échappatoire que de faire tourner la planche à billets. Elle l'a déjà fait en prêtant 2 fois 500 milliards d'euros aux banques. Et donc ça va se terminer en inflation. Et donc la meilleure façon de protéger un capital sur le long terme face à des bouleversements de ce genre, c'est d'avoir de l'or. Voilà, donc c'est pour ça que je conseille.
L'histoire montre par ailleurs que les plus belles fluctuations et les plus beaux cracks se sont passés sur l'or. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où l'or, effectivement, a connu des niveaux de cours extrêmes, puis brusquement, entraînant leur... Ce n'est pas une garantie de stabilité, or.
Si, à long terme, si. En fait, il y a eu un seul crack depuis que l'or est libre, c'est-à-dire depuis 1971, il y a eu un crack de l'or qui est en 1980, parce qu'en fait, il y a eu une accélération de l'inflation dans les années 70, et il y a eu un mouvement presque de panique un peu vers l'or, ce qui a contribué à faire monter son cours. Et puis en 1979, Paul Volcker est nommé à la tête de la Fed avec comme mandat de terrasser l'inflation, ce qu'il va faire en montant les taux d'intérêt sur le dollar à 20%.
Ouais.
Et donc la façon a tout de suite chuté, ce qui fait que les possesseurs d'or ont été pris un peu à contre-pied. Et donc l'or a perdu la moitié de sa valeur en l'espace d'un an. Il est passé de $600 l'once à $300 l'once. Donc on peut parler d'un crack, enfin c'est pas non plus tombé à zéro. Ensuite, l'or va rester stable pendant à peu près 20 ans jusqu'à 90, à peu près $300 l'once.
Avec une progression régulière.
Non, en fait, pas de progression. Donc, ça veut dire que ce n'était pas le bon placement à l'époque.
D'accord,
mais
ouais.
ça veut dire aussi en négatif que la monnaie, à l'époque, était bien gérée. Et quand on se rappelle cette période, on sait que les taux d'intérêt étaient supérieurs à l'inflation, ce qui veut dire que l'argent coûtait cher.
D'accord.
Et donc, c'était une situation saine qui correspond à la norme. Et qu'à partir du moment, en 2001, quand Greenspan a décidé de faire baisser les taux d'intérêt sur le dollar et que le taux d'intérêt est passé en dessous de l'inflation, c'est-à-dire que l'argent, ça a provoqué une bulle monétaire, une bulle de crédit qui s'est localisée dans l'immobilier et qui a été accélérée par les subprimes, on connaît l'histoire, et bien là, l'or s'est méramenté à partir de cette période-là,
ouais.
À partir de 2001.
Elle soulignait quelque chose, l'anomalie
voilà.
Du fonctionnement du
système. C'est un peu le canari dans la mine, c'est-à-dire alors. Que voilà, c'est le voyant rouge qui s'est allumé, que n'ont pas écouté les banques centrales à l'époque parce qu'elles considèrent que l'or, c'est quelque chose du passé qui n'a pas de valeur, mais bon, ça a servi de clignotant.
Alors, l'intérêt de votre ouvrage, au-delà de la théorie, puisque là, en fait, vous êtes pro-or, on peut être contre, mais par contre, c'est l'intérêt de votre ouvrage, c'est que c'est en fait un guide pratique qui permet à chacun de comprendre, lorsqu'il aura fait ce choix, s'il décide de faire ce choix, comment acquérir de l'or, comment le gérer, quels sont les pièges à éviter, etc. Donc, l'or, un placement d'avenir, guide pratique, comment acheter et gérer de l'or. Et alors, on termine par quelque chose que vous avez évoqué au cours de nos deux précédentes interrogations sur vos deux ouvrages, c'est la situation française. Alors, le troisième ouvrage sur ce premier trimestre, je rappelle, paru chez Erol, c'est la France, point d'interrogation, faillite après la perte du 3A. Alors, le triple A, ça commence à être un peu loin. Et en fait, la première perte du triple A n'a pas entraîné de conséquences très mesurables sur, on va dire, la solvabilité des finances publiques. Est-ce que, vu d'aujourd'hui, hein, votre livre est paru maintenant, ça fait plus de 3-4 mois, est-ce que vous avez des impressions ou des observations différentes à faire, ou est-ce que vous restez toujours sur votre ligne en disant « attention, c'était la première fois et ça va nous rattraper ».
Oui, là-dessus, c'est-à-dire ce que j'explique dans le livre aussi, c'est que le marché a intégré le fait que la France quittait le club des 3A, des triple A, à peu près en septembre-octobre. Et c'est à ce moment-là que les taux sur les emprunts français sont montés. Donc en fait, quand la nouvelle est tombée le 13 janvier, ça n'a pas provoqué de mouvement. Maintenant, quand on regarde la période longue, nous sommes dans une situation de dégradation. Il n'y a pas du tout, on peut prévoir que Moody's risque aussi de dégrader, de nous faire perdre les triple A. Donc ça ferait 2 agences sur 3 qui nous dégraderaient, et là ça commencerait à se faire sentir. Et puis même, on voit qu'avec le retour de la crise qui se manifeste actuellement en Espagne, en Italie, un jour ou l'autre, ça va impacter la France, et on peut tout à fait prévoir que les taux d'intérêt à 10 ans, qui sont un peu l'indicateur principal, vont dépasser les 3%. Et ensuite, on va rentrer dans une zone d'inconnu et d'incertitude. Et moi, je prévois que bon, si on ne fait pas de réforme structurelle sérieuse, ça va mal se terminer, quoi. C'est-à-dire qu'on va vite dans la situation de la Grèce ou l'Italie à emprunter à des taux de 5-6%.
Qui sont insupportables.
Qui là, nous empêchent quasiment de revenir à l'équilibre budgétaire, quoi, compte tenu de l'explosion que ça va provoquer sur la charge de la dette.
Bon, bah écoutez, voilà des prévisions qui sont assez pessimistes, mais le pire n'est jamais sûr. On terminera donc en citant un passage de votre ouvrage « Repenser l'économie, Mandelbrot, Pareto, signes noirs, monnaie complémentaire, les nouveaux concepts pour sortir de la crise », paru chez Erol, 312 pages, 23 euros. En citant ce que vous dites en conclusion, notre objectif est moins de proposer un modèle alternatif que de penser autrement, avec d'autres concepts, se rendre compte des erreurs du modèle gaussien, vous l'avez développé tout à l'heure, intégrer le risque extrême, les lois de puissance, comprendre les notions de fractal et d'entropie, sortir du simplisme de la loi de l'offre et de la demande, admettre la réflexibilité dans notre rapport au monde, redécouvrir que l'économie fonctionne en réseau, changer le système monétaire pour rendre notre économie plus résiliente. Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. Et vous citez Per Bach, « Quand la nature s'organise », on terminera là-dessus, « L'économie ne sera jamais une science exacte, comme la physique. Il faut se garder de toute prétention dans ce domaine. Comme le signal, comme il le disait, il me semble que l'économie, en raison de la complexité des systèmes étudiés, ne doit pas exiger de solutions mathématiques exact, il existe une indétermination des comportements économiques irréductibles à tout système d'équations. » Et oui, donc l'économie, c'est une science humaine.
Voilà, tout à fait.
Je crois que ça sera le dernier mot. Merci à vous, merci. Philippe Erlin, pour être venu à notre micro. Je rappelle vos trois ouvrages. « Repenser l'économie » chez Erol, « La France, la faillite après la perte du 3A, des conseils pour protéger votre patrimoine », L'or, un placement d'avenir. Et donc, je dis à nos auditeurs, si votre interrogation porte avant tout sur la situation nationale, prenez le livre sur la France en faillite après les 3A. Si, par contre, votre préoccupation est beaucoup plus macroéconomique, prenez celui qui s'intitule « Repenser l'économie ». Et puis, si vous voulez diversifier vos placements, attachez-vous à l'ouvrage « L'or, un placement d'avenir ». Le fil d'Ariane de ces trois parutions sur lesquels souffle un vent de fraîcheur non conventionnel et pétillant d'intelligence, reste d'apporter des éclairages qui, en comprenant la crise et ses risques, peuvent aider pour la traverser au mieux et singulièrement dans la gestion de son patrimoine aussi le mieux, et de se priver d'aucune d'entre elles. Merci à vous, Philippe.
Merci.